avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les Ouïghours, un peuple réduit au silence. De culture turcophone et musulmane vivant dans la région autonome du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, les Ouïghours subissent depuis plusieurs années une répression sévère de la part du régime de Pékin au nom de la lutte contre le terrorisme et l'islamisme. Surveillance ultra-technologique, jusque dans les moindres recoins de la vie privée, camps d'internement, stérilisation, torture, assimilation forcée. Depuis plusieurs mois, des enquêtes d'ONG, de chercheurs, de journalistes, des témoignages de rescapés décrivent un système totalitaire pour briser un peuple. Au moins 1 million de Ouïghours seraient internés ou auraient été à un moment internés au Xinjiang et plus de 500 000 condamnés au travail forcé. Nous allons tenter de comprendre comment fonctionne cette forme moderne de totalitarisme, soucieuse de ne pas laisser trop de preuves. On en discute avec nos invités. Bonjour Dilnur Rayan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous chez 7 milliards de voisins. Vous êtes sociologue, professeur à l'INALCO et présidente de l'Institut des Ouïghours d'Europe. Également au téléphone avec nous, Sylvie Lasserre. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes ancienne reporter spécialiste de l'Asie centrale. Vous avez publié « Voyage au pays des Ouïghours, de la persécution invisible à l'enfer orwellien » aux éditions S, une édition entièrement remise à jour avec énormément de témoignages de réfugiés ouïghours recueillis en Turquie, en France. Également avec nous, Sylvain Louvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur d'un documentaire remarqué et remarquable, pour lequel vous avez reçu d'ailleurs le prix Albert Londres, « Tous surveillés, 7 milliards de suspects », diffusé sur la chaîne Arte, un documentaire qui comprend d'ailleurs une partie sur la Chine, où le coronavirus n'a fait que renforcer une dictature numérique, testé d'abord auprès des Ouïghours, le fameux enfer orwellien, en référence au roman 1984.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Dilnur Rayan, quelle est l'ampleur aujourd'hui de la répression, de la surveillance au quotidien des habitants ouïghours dans cette région qui est, rappelons-le pour nos auditeurs, grande comme 3 fois la France métropolitaine?
Oui, il est difficile à dire exactement l'ampleur de cette répression qui dure maintenant. Bien sûr, en fait, la répression en soi dure depuis 70 ans, mais là, actuellement, précisément, on parle depuis notamment fin 2016 avec un système génocidaire et une surveillance orwellienne. Selon les chiffres donnés par la Chine ou encore, en fait, les estimations faites par les chercheurs, qu'on peut donner à peu près une petite estimation, nous estimons déjà environ 3 millions de Ouïghours et d'autres populations turciques sont enfermés dans des camps de concentration et ou dans des prisons. Et nous estimons également, selon le chiffre donné par la Chine octobre dernier dans sa publication de Livre Blanc, la Chine indiquait elle-même depuis 2014, chaque année, environ 1,3 million de personnes de la région ont été internées, passées par ces camps de rééducation.
Alors évidemment, les chiffres sont tous compliqués à obtenir. Vous utilisez le mot génocidaire. L'enquête de la BBC a confirmé tout récemment des violences sexuelles contre des femmes, violées dans les camps, condamnation du Royaume-Uni. Les accusations de stérilisation forcée ont conduit la nouvelle administration américaine de Joe Biden à confirmer aussi les accusations de génocide, on y reviendra, qui avaient déjà été énoncées par l'administration de Donald Trump. Néanmoins, c'est un mot extrêmement fort. Il n'a pas d'exécution de masse, comme on l'a vu pour le génocide nazi, arménien, rwandais, mais tel n'est pas tellement le propos de notre émission aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne bien comment la Chine a construit un système totalement totalitaire, moderne, pour enfermer la population ouïghour. En amont des camps et des menaces d'internement, il y a cette surveillance généralisée qui atteint des sommets. Voici quelques extraits de votre documentaire, Sylvain Louvet.
Ma ville natale me manque. J'y pense tout le temps. C'est une région magnifique, avec ses montagnes, ses lacs, ses déserts, ses jardins et ses oasis qui n'ont rien à voir avec d'autres endroits. Mais notre ville a perdu de son charme. Au Xinjiang, il y avait déjà des caméras partout, à chaque coin de rue. Mais en 2009, nous avons appris l'arrivée d'autres technologies. Par exemple, l'enregistrement vocal. Certaines voitures de police étaient équipées de machines qui permettaient de capter des conversations à distance. Quand on se baladait dans la rue en discutant, si on voyait une voiture de police qui passait, on arrêtait la discussion jusqu'à ce que la voiture s'en aille. Ensuite, ils ont inventé un appareil, une sorte de décodeur destiné aux familles. Forcément, nous étions méfiants. Parce que les gens disaient que l'appareil pouvait enregistrer les conversations à la maison. Comme on n'avait plus la liberté de parler, on allait dans des endroits éloignés, loin de la ville. On allait au moins à 10 km de la ville, parfois 40 ou 50, pour partager nos opinions politiques. Dans des endroits où il n'y avait pas d'équipement de surveillance, comme les montagnes, les forêts ou les lacs, pour se libérer de la frustration au fond de nous, pour parler de politique, pour partager nos pensées.
Voilà, une surveillance sur la voie publique, mais pas seulement, hein. Jusque dans les maisons. Écoutez le témoignage de ce chauffeur de taxi, c'est toujours extrait de votre documentaire, Sylvain Louvet.
Moi, je loue un appartement. Peu de Ouïghours peuvent le faire. Sur ma porte, j'ai un QR code à l'entrée de chez moi.
Un QR code ?
Oui. Le QR code, ils le scannent plusieurs fois avec leur téléphone et en scannant le QR code, on obtient le nombre de personnes dans la famille. S'ils sont présents à la maison et ce qu'ils font.
Ou encore, témoignage de cette réfugiée ouïghour aux États-Unis, Mirigul Tursun.
Avant d'aller dans les camps, on nous fait lire un livre pendant une demi-heure, devant une caméra. Après avoir lu, on nous demande de faire ça. 5 expressions faciales. Comme ça, comme ça et comme ça. Ils demandent à tout le monde de faire la même chose et ils nous filment. Ensuite, ils enregistrent le mouvement des yeux et ils récupèrent une mèche de cheveux. On nous fait marcher 5 pas en avant, 5 pas en arrière, et ils mesurent également notre taille. Ça leur permet de nous identifier. C'est ce que je pense. Et comme ça, ils peuvent nous tracer, même quand on est à l'étranger, par tous les moyens, avec ma voix, une photo de moi de profil ou de dos.
Sylvain Louvet, quelles sont toutes ces technologies de pointe utilisées pour une surveillance généralisée d'un peuple entier ?
Il faut effectivement décrire ce qui se passe aujourd'hui au Xinjiang. C'est-à-dire que le Xinjiang est devenu une sorte de dictature numérique. La technologie est finalement utilisée par Xi Jinping pour mettre effectivement toute cette région sous cloche et museler les Ouïghours. Donc vous avez tout un ensemble, une batterie d'outils, de dispositifs de surveillance extrêmement sophistiqués. Donc, entre autres, effectivement, dans le documentaire, on montre que les Ouïghours aujourd'hui ont des QR codes à poser sur leur porte qui permet de savoir combien de personnes vivent dans une maison, savoir exactement ce qu'ils font. Il y a des caméras qui détectent les minorités, il y a des micros dans les voitures de police qui enregistrent les conversations. Il y a également une application utilisée par les policiers chinois qui permet de classer les Ouïghours par degré de suspicion. Donc, par exemple, au Xinjiang, il faut savoir que si vous sortez par la porte de derrière plutôt que par la porte de devant, vous pouvez être considéré comme suspect. Si vous prêtez une voiture à quelqu'un, si votre consommation d'électricité est trop élevée. Et parce qu'en fait, toutes ces informations sont envoyées à une plateforme qui s'appelle IGOP, qui est une plateforme qui classe les individus par degré de suspicion. Et ceux que la Chine va considérer comme les plus suspects vont disparaître dans des camps de rééducation. Et moi, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, sur place, m'a complètement fait halluciner, je dois dire.
Ce sont évidemment des dépenses budgétaires aussi extraordinairement importantes.
Oui, absolument. Il faut savoir que dans cette région du monde, le budget pour la sécurité a été multiplié quasiment par 10 et aujourd'hui atteint près de 10 milliards de dollars dans cette région. Donc effectivement, il y a une débauche de moyens de la part du régime chinois pour vraiment mettre ce territoire sous surveillance, sous cloche.
Comment vous avez travaillé le chauffeur de taxi, par exemple, dont vous avez récupéré, enregistré le témoignage, a eu des problèmes ensuite?
En fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que quand vous tournez déjà au Xinjiang, par précaution, vous ne pouvez pas contacter les gens en amont. Donc, on n'a pas justement essayé de connecter et d'appeler nos interlocuteurs. Donc, on est parti en mode reportage. Et donc, on a minimisé les risques, donc en essayant effectivement de ne pas laisser de traces sur les applications, etc. Néanmoins, il faut savoir que quand vous êtes journaliste sur place, vous êtes radioactif. Donc, toutes les personnes que vous croisez dans la rue, dans les commerces, etc., peuvent à un moment donné être interrogés par la police parce que vous parlez avec elle. Donc ce chauffeur de taxi, ce qui se passe, qu'on a effectivement passé une journée avec lui, c'est lui qui s'est confié à nous en expliquant que son père était détenu dans un des camps et il nous a proposé lui-même d'aller effectivement voir le camp dans lequel son père était détenu. Et donc on a essayé, pour minimiser les risques, de rompre tout contact avec lui. Et effectivement, on s'est rendu compte que le lendemain, quand il devait venir nous chercher, la police était déjà passée chez lui la veille et que c'était compliqué pour lui de revenir. On sait qu'il va bien, puisqu'on a eu des nouvelles quelques jours après. Mais voilà, ensuite, on n'a plus de contact avec lui sur les réseaux sociaux. Donc voilà.
C'était il y a combien de temps, ça ?
C'était, quand on a tourné, c'était il y a 2 ans.
La situation s'est encore durcie, c'est ce que vous... récupérer des témoignages que vous obtenez, Sylvie Lasserre, de réfugiés ouïghours?
Oui, enfin, elle est constante. Hein. Alors bon, on recueille des témoignages de personnes qui ont pu être libérées des camps et qui ne sont pas chinois de nationalité, donc qui ont pu s'échapper du pays, par exemple des Kazakhstanais ou des Ouzbékistanais qui sont ouïghours et qui ont pu s'échapper. Donc on a recueilli des témoignages parce qu'à l'intérieur des camps, c'est un peu la même chose. Vous avez des caméras. Pourquoi on fait lire des textes aux personnes qu'on arrête? C'est pour la reconnaissance vocale également, pour les identifier par la voix, par l'iris, par les empreintes digitales, par l'ADN. Tout ça, c'est mis dans une base de données gigantesque. Et donc, on sait exactement qui est qui, où le trouver, etc. Ça, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, puisque la diaspora est également persécutée.
Dilnour Rayan, parallèlement aux nouvelles technologies dont on vient de parler, il y a aussi une surveillance jusque dans les chambres à coucher des habitations de la population ouïghour avec le fameux programme Devenir Famille. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
En effet, hormis les environ 3 millions de personnes qu'on estime dans les camps de concentration, en dehors, pour les 9 millions de
Ouïghours... Vous parlez de 3 millions de personnes, mais c'est vrai qu'on retrouve plutôt là dans les rapports, plutôt autour de 1 million. Mais enfin, peu importe, parce que c'est vrai que de toute façon, c'est un chiffre extrêmement élevé et qu'il est difficile à l'heure actuelle de discuter de ces chiffres-là.
Complètement. De toute manière, déjà 1 million, c'est déjà énorme.
Oui, énorme. Énorme, c'est près de 10% de la population.
Bien sûr. Et que 1 million, sachant qu'en fait ce chiffre a été par rapport pour 2017. Nous sommes 2021, je rappelle, d'autant plus que j'ai rappelé tout à l'heure les chiffres donnés par la Chine elle-même. Donc 1,3 million de personnes chaque année ont passé par ces camps depuis 2014. Donc pour la surveillance en dehors des camps, puisqu'on fait, on parle de en dehors des camps pour la région, hormis cette surveillance hautement technologique dans la région, mais aussi c'est accompagné par diverses campagne pour obliger les Ouïghours à renoncer à leurs coutumes traditionnelles et à leur identité ethnique et religieuse, entre autres cette fameuse politique de devenir une famille. C'est-à-dire, en fait, depuis 2016, la Chine envoie un nombre important des fonctionnaires chinois, majoritairement des hommes, dans des maisons Ouïghours et Kazakhs pour qu'ils restent environ, en fait, une semaine ou deux par mois, restant dans la maison pour surveiller les activités au quotidien des Ouïghours. Le but, c'est de savoir est-ce que la famille, elle exerce une activité Ouïghour, c'est-à-dire une pratique culturelle Ouïghour, de langue ou encore de pratique religieuse. Est-ce qu'ils gardent des livres religieux ou intellectuels concernant l'identité Ouïghour, ou encore, en fait, est-ce qu'ils cuisinent jusqu'à, en fait, la cuisine.
L'alimentation est très différente. attention, hein, il faut bien complètement, préciser.
Sachant qu'en fait, la culture ouïghour, les Ouïghours, culturellement, sont totalement différents des Chinois, ne partagent ni la langue, ni la culture, ni la religion, ni l'histoire, pour une large partie, puisqu'en fait, la colonisation, elle date depuis seulement 1949.
Ouais. Ça veut dire que ces fonctionnaires chinois dont vous parlez, que l'on appelle des cousins, et qui viennent séjourner à l'intérieur même de ces familles, dormir dans les habitations pendant plusieurs jours d'affilée, ils surveillent même le discours des enfants.
Il y a deux politiques en fait, qui sont liées, souvent en fait, confondues. Il y a la politique de devenir une famille ouïghour avec une famille chinoise à l'extérieur de la région ouïghour. Ça, c'est une chose. En fait, il y a deuxième politique depuis 2016, c'est les fonctionnaires qui dorment directement dans la maison des Ouïghours une fois par mois pendant une semaine. Et ces fonctionnaires, majoritairement des hommes, ils ont le droit de partager, jusqu'à partager le lit avec les femmes de la maison. Et que le refus sera considéré comme un acte terroriste. Et la famille risque d'être envoyée toute au camp de concentration. Et puis, effectivement, en fait, nous avions pu télécharger en fait, sur les réseaux sociaux chinois un guide destiné à ces cadres, comment en fait, détecter leur ouïghourité ou leur religiosité de ces familles ouïghours. C'est notamment, en fait, ils indiquent interroger les enfants. Les enfants de bas âge, ils ne sont pas ces pauvres enfants, ils ne sont pas tranquilles non plus, ni à la maison, ni à l'école, parce qu'ils vont jusqu'à l'école pour les interroger et que les enfants, ils savent moindre des choses qui échappent de leur bouche peuvent être fatales pour leurs parents. Et que parfois, on assiste aussi en fait à des agressions sexuelles, viols des enfants jusqu'à les enfants. Et que nous avons notamment en fait aux États-Unis l'une des rescapées qui témoigne pour sa fille de 11 ans qu'elle a eu peur pendant 3 mois, qu'elle a refusé à maintes reprises la demande de fonctionnaires chinois qui est chargé de surveiller l'enfant pour qu'il contre ses demandes insistantes de l'amener chez lui dans sa chambre.
Sylvain Louvet, vous évoquiez tout à l'heure l'utilisation des hautes technologies pour établir des critères pour rendre suspects les Ouïghours. Comment cela fonctionne et est-ce que ces critères pour arrêter les Ouïghours peuvent être décidés également par un logiciel et pas seulement par l'intelligence humaine des policiers?
En tout cas, c'est ce que l'on suspecte. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une application, si vous voulez, les policiers chinois ont pas beaucoup d'applications de surveillance sur leur téléphone et cette application est en fait une espèce de grand formulaire dans lequel vous avez des différentes catégories et donc comme je le disais tout à l'heure, il y a effectivement des critères de suspicion et notamment par exemple la religion en fait partie. Si vous avez des documents liés au Coran sur votre téléphone portable quand vous êtes Ouïghour et que l'on vous saisit le téléphone portable, par exemple les policiers ont la possibilité d'aspirer le contenu des téléphones et ensuite l'application va automatiquement générer une alerte dans cette plateforme pour dire attention, des documents dans ce téléphone sont suspects. Et en fait, il se trouve effectivement que toutes ces informations, donc les policiers chinois ont ça entre leurs mains, et toutes ces informations sont envoyées vers une grande base de données, si vous voulez, qui est traitée par des algorithmes. Et à ce stade, on ne sait pas si effectivement c'est une machine qui décide, donc si ce sont des algorithmes qui décident de qui va partir dans des camps, ou si c'est un humain qui prend cette décision, ce qui est quand même assez incroyable à notre époque.
Les algorithmes de la répression selon l'ONG Human Rights Watch. Est-ce que, Sylvie Lasserre, on peut, selon vous, parler d'une forme totalement inédite de totalitarisme qui ausculte jusque dans les moindres recoins de la vie privée où la surveillance, finalement, n'a plus de limites et ne s'appuie pas seulement sur la délation par les autres, comme on peut voir dans d'autres totalitarismes, mais sur la technologie qui ne laisse aucun espace de liberté individuelle?
Ben oui, c'est évident. Jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping, c'était déjà le cas, mais c'était de la délation humaine. Et depuis son avènement, avec en plus l'arrivée de Chen Guangguo en 2016, c'est la technologie...
Le gouverneur de la région autonome du Xinjiang.
Oui, pardon, oui. Et donc, comme disait Sylvain, ce sont des bases de données. Moi, j'ai lu qu'en fait, c'est carrément l'algorithme qui dit qui va aller en camp ou qui ne va pas y aller. Il suffit, par exemple, d'être allé une fois prier à la mosquée plusieurs années auparavant, un jour de la tête de l'Eid, par exemple, ça suffit pour vous envoyer dans un camp, et tout ça, c'est dans cette base de données. Il suffit d'avoir un enfant qui étudie dans un des pays interdits. Donc, en général, ce sont des pays musulmans, ça peut être la Turquie, et vous êtes envoyé dans un camp, etc.
Toutes les familles ouïghours aujourd'hui sont concernées par les disparitions, par les internements, par les arrestations, ça c'est absolument certain. Vous restez tous les trois avec nous, Dilno Rayan, Sylvie Lasser et Sylvain Louvet. On se retrouve dans quelques instants.
Odamladin ranjma ko'nglim ulamim sarxli bardi odamladin ranjma ko'nglim
Écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des Ouïghours aujourd'hui avec nos invités Dilno Rayan, sociologue, professeur à l'INALCO, présidente de l'Institut des Ouïghours d'Europe. Sylvie Lasser, qui a publié « Voyage au pays des Ouïghours, de la persécution invisible à l'enfer orwellien ». Et avec vous, Sylvain Louvet, pour votre documentaire « Tous surveillés, 7 milliards de suspects », dont une partie est consacrée à la région autonome du Xinjiang, dans laquelle vivent plus de 10 millions de Ouïghours. Dilno Rayan, est-ce que vous pouvez nous dire qui on vient d'entendre, cette très belle voix ?
C'est Nubal Tursun, c'est la grande diva ouïghour qui est très connue en Asie centrale, mais aussi d'une certaine manière en France aussi.
C'est la Kalsoun d'Asie centrale, on peut dire ça comme
ça. Tout à fait, oui.
Elle-même a disparu à un moment donné de la vie publique, de la scène.
Oui, tout à fait. Elle avait normalement des concerts dans plusieurs opéras de France. En février 2019 et qu'à partir de environ octobre 2018, elle a disparu totalement et que nous avons appris qu'elle était dans un camp. Par la suite, en fait, nous avons fait pas mal de comment dire, campagnes en français et dans le monde pour elle. Et finalement, en fait, elle a été libérée autour de 2020.
Elle chante des poèmes traditionnels ouïghours qui sont chantés lors de fêtes, des fêtes qui ne sont plus autorisées au Xinjiang. Mais paradoxalement, la Chine a œuvré pour que soient reconnus ces poèmes au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça peut sembler très compliqué à comprendre.
Non, c'était déjà en 2005 et que c'est passé point. C'est la musique traditionnelle ouïghour muqam qui est un système, qui est un répertoire extrêmement important classique de la musique ouïghour. Sachant qu'en fait, la musique, elle est vraiment l'identité ouïghour. Et en 2005, ça a été classé par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Et que cela, la Chine, en fait, elle a toujours utiliser des méthodes douces et méthodes dures en même temps pour assimiler et contrôler l'identité ouïghour. Pour arriver tout cela, finalement, beaucoup posent la question pourquoi maintenant, nous avons toujours entendu la répression, mais pourquoi maintenant pour arriver à cette situation génocidaire? C'est tout simplement, en fait, la relation entre la Chine et les Ouïghours, le pays ouïghour, est une relation coloniale et qu'au bout d'un moment, dans un système colonial, où on réprime, on va arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire éradication des propriétaires d'un territoire pour totalement intégrer ce territoire dans le territoire dominant.
En tout cas, une éradication de la culture et de l'identité culturelle. Sylvain Louvet, vous avez filmé un camp à 60 km de la ville en 2018. Il y avait une inscription sur la façade qui signifiait « Centre d'enseignement, étudier vertueusement, penser vertueusement
». Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça terriblement triste. C'est-à-dire qu'on est pile dans ce qu'on est en train de décrire là, c'est-à-dire un peu le double discours chinois, c'est-à-dire de toujours nier l'évidence. Et c'est-à-dire qu'on essaye de faire passer des camps de rééducation dans lesquels quand même des milliers de preuves, des milliers de témoignages aujourd'hui, même si effectivement on parle des États-Unis, de la France, de l'Europe, etc., mais il y a beaucoup de réfugiés maintenant qui commencent à parler.
Les satellites parlent sur la présence de ces camps qui ne sont pas microscopiques.
Absolument. Sur la façade, on parle d'un centre d'enseignement. J'entendais tout à l'heure sur l'histoire de la chanteuse ouïghour qui est mise en avant par le régime chinois. C'est tout le paradoxe du régime de Xi Jinping, c'est-à-dire de toujours garder une façade pour expliquer et mettre sur la place publique disant vous voyez, regardez, on met en avant la culture ouïghour. Quand vous êtes à Urumqi, dans la capitale ouïghour, vous avez dans le quartier ouïghour des musiciens qui jouent dans une seule rue et qui dansent sur une place à un seul endroit de la ville. C'est le seul endroit où on peut effectivement voir la culture ouïghour à l'extérieur, sur la place publique. Comme s'il fallait effectivement montrer une belle façade pour les étrangers. Et ça, c'est vraiment dans la stratégie, c'est assez clé dans la stratégie du régime chinois.
Sylvie Lasserre, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ces camps de rééducation?
Écoutez, d'après ce que j'ai recueilli comme témoignage, notamment celui de Gulbahar Jalilova, qui est donc du Kazakhstan, il y a plusieurs niveaux de camp, d'après ce que j'ai compris. Ils sont numérotés de 1 à 5. Il y a ceux où on travaille normalement, et puis on est très maltraité, mais on travaille, on sort. Et il y a les pires, où là, vous ne sortez plus, vous êtes à 25 dans une cellule qui fait 20 mètres carrés, même pas, vous n'avez pas la place de dormir. Quand je dis non, vous n'êtes pas 25, vous êtes 40. Gulbahar Jalilova disait qu'elle se relayait pour dormir parce que seule la moitié pouvait s'allonger pendant que les autres restaient debout. Vous êtes torturé, vous n'avez pas d'eau, vous avez un seau pour faire vos besoins dans un coin devant tout le monde. Les femmes ont les cheveux rasés, on vous enlève tous vos vêtements, vous avez un uniforme, vous êtes complètement déshumanisé. Et récemment, on a appris que systématiquement, les femmes étaient violées en plus. Donc elles sont traitées comme des animaux, sans compter les séances d'interrogatoire, de torture. Et ces femmes ne voyaient pas le jour, on ne les emmenait même pas travailler. À la limite, elles auraient presque peut-être aimé aller faire du travail forcé, vous voyez.
Alors justement, vous parliez du travail forcé, et il y a eu toute une polémique sur le coton majoritairement produit au Xinjiang, le coton chinois, qui est désormais boycotté par les États-Unis parce que il est récolté et ensuite tissé dans des usines à partir de travail forcé, dit Ryan, vous confirmez?
Tout à fait. La région Ouïghour, c'est un... C'est une région extrêmement importante, non seulement géopolitiquement, mais aussi en fait, pour ses richesses au sous-sol. Et dont comment dire, environ 20% de pétrole et gaz naturel, mais aussi 40% de charbon et aussi 87% de coton, production de coton. C'est pourquoi, enfin, non seulement en fait, 87% de coton en Chine représente le coton ouïghour, mais aussi en fait, à l'étranger, à l'international, 20%, environ 20% de production de coton concerne les Ouïghours. C'est pourquoi, enfin, il est important en fait, de réfléchir. Effectivement, comme Sylvie vient de le dire, enfin, une partie des Ouïghours travaille comme des esclaves au sein de certains camps. Au sein de certains camps, il y a des camps de travail forcé. Et puis, en dehors des camps, dans la région ouïghour, il y a des usines qui produisent pour des diverses marques. Oui, mais aussi en Chine intérieure, des usines. Et que sachant que ces ouvriers ouïghours ne sont pas uniquement des détenus, ils sont aussi des populations ordinaires ouïghours qui sont hors des camps.
Oui, et quasiment pas payés, ce qui permettrait, certains l'ont dit, de faire face à la concurrence d'autres pays d'Asie comme le Bangladesh et le Cambodge. Il y aurait donc un enjeu économique. Vous avez évoqué d'autres enjeux économiques et stratégiques pour la Chine de conserver la mainmise de manière très étroite sur le Xinjiang, les richesses naturelles notamment.
Oui, tout à fait. Et d'autant qu'en fait, sur Arte, il y avait justement un documentaire sur l'argent et Troisième Reich. C'est exactement le même système. Donc, en regardant, enfin, on dirait c'est la situation actuelle ouïghour, qui parlait en fait pour nourrir un système concentrationnaire et génocidaire, il faut remplir les caisses. Comment remplir les caisses? C'est le travail forcé. C'était le système nazi. Et qu'actuellement, on voit exactement la même chose. Comme Sylvain aussi précisé, étant donné que presque l'ensemble du budget annuel de la région a été dépensé sur la sécurisation, et comment remplir cette somme? Et donc, ils ont trouvé la solution, finalement, qui n'est pas nouvelle du tout, le travail forcé des Ouïghours.
Sylvie Lasserre, vous souhaitez intervenir?
Oui, non, c'était juste pour ajouter que maintenant, près des camps, de tous les camps, ils ont bâti des usines pour que ce soit plus facile de transporter les prisonniers d'un camp à l'usine. Voilà. Et aussi, pour rebondir là-dessus, il n'y a pas de petit profit. C'est-à-dire qu'on a compris que, par exemple, les cheveux des femmes sont tissés donc, dans des usines pour faire des perruques ou des extensions, je ne sais quoi, tissés par les prisonnières ouïghours, et tout ça, c'est vendu à l'extérieur, à l'étranger.
Ça rappelle
il y a eu des saisies douanières aux États-Unis, par exemple. Oui, ça rappelle quelque chose d'abominable. C'est exactement...
Le régime nazi.
Oui.
Je vous propose, alors, vous parliez de la condition des femmes dans cette oppression généralisée. Je vous propose d'écouter un extrait de nouveau du documentaire de Sylvain Louvet, Mirigul Tursun, réfugié ouïghour aux États-Unis.
J'étais cellule 210. Nous étions 68 femmes dans le même camp. L'intérieur de la pièce était très froid, crade, avec des mouches. Une odeur insupportable. Les femmes ne sortaient jamais de leurs cellules. Dans la nuit, on entendait le bruit des chaînes, les cris des gens, des corps qui se faisaient traîner par terre, à droite, à gauche. Les femmes rentraient dans leurs cellules avec du sang partout. Il y en a une qui est rentrée complètement épuisée. On aurait dit qu'elle avait subi des chocs électriques sur la chaise. Une fois par semaine, on nous forçait à avaler des médicaments. On nous mettait en ligne et on nous faisait réciter des propos du parti. Tels que « Vive le Parti communiste !»,« Longue vie à Xi Jinping !»,« Notre Allah est le communisme chinois !» On devait les répéter très rapidement, sinon on était privé de nourriture. En ce moment, ça m'arrive encore de chanter inconsciemment ces chansons. Pardon, désolée. C'est leur chanson préférée, pas la mienne.
«
Écoutez aussi le témoignage de Gulbahar Atiwaji, réfugiée en France pendant 10 ans. Elle a été arrêtée lors d'un séjour au Xinjiang. Elle a passé 2 ans et demi dans les centres d'internement chinois. Elle publie « Rescapée du goulag chinois » aux éditions des Équateurs. Voici un extrait de l'interview qu'elle a accordée à Heike Schmidt sur les stérilisations de femmes.
Oui, on devait recevoir des vaccins 2 fois par an et ils disaient que c'était contre la grippe. On était, même si on avait le choix, on était quand même obligé à la fin de l'avoir, ce vaccin. J'ai vu beaucoup de jeunes filles ne plus avoir leurs règles. Elles s'inquiétaient de leur avenir parce qu'elles voulaient avoir des enfants par la suite. À l'époque, j'avais des soupçons sur la vraie nature de ces vaccins, mais je n'avais pas de preuves. Et une fois arrivée en France, j'ai appris l'existence des stérilisations de masse.
Il y a effectivement des preuves aujourd'hui qu'il y a eu des campagnes de stérilisation au Xinjiang. Et d'ailleurs, la presse chinoise se réjouit que les femmes ouïghours ne soient plus des machines à fabriquer des bébés. Donc, vous pensez que vous avez peut-être subi une stérilisation forcée, vous et vos co-détenus ?
Albatta. Oui, oui, bien sûr.
Les stérilisations forcées d'Ilnur Rayan, c'est... ce qui a évidemment poussé les États-Unis à parler d'accusations de génocide, hein, puisque ça reviendrait à vouloir effectivement exterminer une partie de la population en l'empêchant de se reproduire normalement. Aujourd'hui, la stérilisation massive des femmes est pratiquée exclusivement lors des internements ou pas seulement ?
Ce que nous avons compris, c'est justement pas seulement dans les camps. Dans les camps, c'est systématique en effet, d'après les témoignages des divers rescapés, hommes et femmes. Ensuite, le rapport publié de Adrien Zanz l'année dernière et cette année, ce rapport ne parle pas des détenus. Et le rapport parle de l'ensemble de la population ouïghour en dehors des camps. Et qu'on apprend entre 2015 et 2018, notamment dans le sud de la région où 95% de la population est ouïghour, dans le sud de la région, la natalité a chuté de 84% entre 2015 et 2018. Et cette chute a continué de 60% en 2019. Et que cela suffit, enfin, comment dire, il y a 5 articles 5. Critères de l'ONU pour la définition de génocide, dont l'une, c'est la stérilisation massive des femmes, la natalité. Le deuxième critère aussi, ça concerne les enfants. Et que sachant qu'en fait, le chiffre donné par la Chine elle-même, c'est 500 000 enfants d'une seule préfecture ont été arrachés aux familles pour être internés dans des camps pour enfants. La Chine l'appelle « jardin d'enfants ».
Vous citiez justement le chercheur allemand Adrien Zenz qui travaille sur la répression ouïghour. Il estime que les camps n'ont pas vocation à tuer les personnes, mais à briser les individus de l'intérieur, à les modeler pour les renvoyer dans la société. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'une part, c'est briser effectivement en fait leur dignité, leur être, et que par lesquels. Mais nous avons aussi en fait un nombre important, en tout cas en fait d'après ce que les personnes qu'on connaît, des morts. Et parmi lesquels il y a des intellectuels que nous avons perdus dans ces camps. Et donc, c'est pourquoi, en fait, ces camps-là ne sont pas destinés uniquement pour briser l'être, mais aussi, en fait, faire disparaître cette population. Soit, en fait, il y a une condition, soit vous devenez complètement docile, oubliant votre être, oubliant votre identité ethnique et religieuse, ou des machines, devenir des robots. Soit vous allez disparaître de cette planète. Mais dans les deux cas, en fait, le résultat, c'est de faire disparaître la nation ouïghour, l'entité du peuple ouïghour.
On a parlé beaucoup de cette surveillance ultra-technologique, notamment avec vous, Sylvain Louvet. Cette surveillance, elle continue, elle perdure d'une certaine manière aussi auprès des réfugiés quand ils sont à l'extérieur du territoire chinois. Sylvie Lasserre.
Oui, bien sûr, oui, oui. Les ambassades, on peut dire les ambassades de Chine dans le monde harcèlent tous les Ouïghours de la diaspora mondiale.
Elles envoient des SMS, elles leur demandent de venir récupérer des paquets à l'ambassade.
Exactement. Ce sont des appels, alors avec des numéros de téléphone qu'on ne peut pas tracer. Ça peut venir d'Italie, ça peut venir... ils changent à chaque fois les numéros de téléphone. Et ils tombent sur un répondeur où quelqu'un leur parle en mandarin, leur disant, voilà, il y a un colis qui vous attend à l'ambassade, votre famille vous a envoyé ça, et tout le monde ne va pas récupérer son colis parce qu'ils ont quand même peur. Et quand ils récupèrent leur colis, c'est visiblement pas de leur famille. C'est juste pour montrer à la communauté, nous savons où vous habitez, nous avons vos coordonnées, nous pouvons vous retrouver n'importe où, n'importe quand, c'est ce qu'on leur dit parfois. Voilà, c'est aussi « tiens-toi bien ».
Ça a été le cas hein, pour Gulbara Atiwaiji, qui avait passé 10 ans en France et qui on a demandé de revenir au Xinjiang pour régler des papiers par rapport à sa retraite hein, et à son ex-employeur. Et elle est revenue pour ses raisons administratives et c'est là qu'elle a été arrêtée, condamnée à 7 ans de rééducation. Elle est sortie au bout de 2 ans et demi grâce à sa fille et à son mari qui étaient, eux, restés réfugiés en France.
Elle a été piégée.
Voilà. Dilnur Rayan, concernant ce harcèlement de la diaspora ouïghour, vous êtes partie il y a bien longtemps. Vous-même, vous faites l'objet d'une surveillance ?
Oui, je suis française depuis déjà 2015, mais malgré cela, en fait, je fais partie de la cible aussi. En réalité, en fait, comme tous les régimes dictatoriaux, la prise en otage de la famille restant dans le pays, c'est l'arme fatale de ces régimes pour contrôler la diaspora, pour contrôler la rébellion aussi. En réalité, en fait, toute personne se retrouvant en dehors de la Chine, ils n'ont pas peur pour eux-mêmes. Aucun Ouïghour de France n'a peur pour soi-même, mais c'est pour la famille restant là-bas. Cela explique aussi le peu de prise de parole par des Ouïghours.
C'est en train de changer.
C'est en train de changer.
Parce qu'il y a ce dilemme, parler ou protéger ceux qui sont restés.
C'est exactement ça. Et d'autant qu'en fait, même, enfin, c'est bien sûr, en fait, depuis 4 ans, maintenant, ça commence à changer depuis ces deux dernières années. Cependant, ça reste 10% de la diaspora. 90%, ils sont toujours terrifiés.
Comment s'organise aujourd'hui la diaspora pour continuer de faire survivre la culture ouïghour, l'identité ouïghour. Vous enseignez la langue ouïghour à l'INALCO ?
J'enseigne les études ouïghours à l'INALCO, la langue, la littérature, la civilisation et l'histoire ouïghour. Dans la diaspora, la lutte elle est menée en deux catégories. L'une, c'est au niveau politique, pour sensibiliser le monde, pour faire stopper le génocide et faire fermer les camps, mais aussi en fait, au niveau culturel, pour la sauvegarde de la langue et de la culture ouïghour. Partout dans le monde maintenant, il y a des écoles ouïghours pour enseigner la langue et la culture aux enfants qui sont nés dans la diaspora.
Vous-même, vous avez grandi linguistiquement dans des écoles ouïghours ?
Oui, tout à fait.
Ouais. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce qu'un enfant peut aller à l'école primaire en langue ouïghour au Xinjiang ?
Non, depuis un certain temps déjà. Enfin, en 2017, la langue ouïghour elle était officiellement bannie du système éducatif, du milieu éducatif. Désormais, ils n'ont même plus pratiqué l'ouïghour oralement dans certaines préfectures, dans le milieu éducatif et de travail.
Vous pensez que la langue ouïghour pourrait s'effacer avec ce système de surveillance ultra serré, ultra technologique, parce qu'on est forcément davantage suspecté quand on parle sa langue ?
C'est le risque. Si cette situation dure encore quelques années, c'est le risque que nous allons avoir, notamment avec la génération, les enfants qui sont arrachés à la culture et à la langue ouïghour, qui sont maintenant élevés entièrement dans la langue et dans la culture chinoise, et que ce que nous allons avoir si cette situation dure, perdure, et que si le monde ne fait rien, non seulement en fait, il n'y a pas en fait, la dimension culturelle a dépassé depuis longtemps. Désormais, on parle de la survie des Ouïghours. La langue et la culture, elle fait partie, bien entendu. Mais là, la question, elle est désormais la survie de la nation ouïghour, du peuple ouïghour.
Sylvain Louvet.
On parle aujourd'hui des Ouïghours, mais qu'en fait, ce système concentrationnaire est en train de s'étendre en Chine. Et notamment, il est en train de s'étendre aux frontières, effectivement, du Xinjiang. Donc, moi, j'ai été surpris d'entendre des témoignages de petits villages en bordure du Xinjiang, expliquant que des enfants avaient disparu, partaient dans des camps, etc. Et puis, depuis quelques temps, on a des informations comme quoi, depuis le mois de janvier, plus d'un demi-million de personnes au Tibet justement, donc auraient été eux aussi envoyés dans des camps, puisque la Chine est en train d'installer ces camps de concentration, enfin les camps de travail officiellement, dans un programme qu'ils appellent le transfert des travailleurs ruraux et sédentaires. Donc en fait, officiellement, il s'agit d'éradiquer la pauvreté au Tibet, sauf qu'en réalité, on se rend compte que ce système concentrationnaire est en train de se développer à vitesse de l'éclair. Et voilà, je tenais à dire parce que effectivement, c'est quelque chose qui mérite d'attirer l'attention aussi des autorités européennes, des autorités françaises. Voilà, j'aimerais qu'on en parle aussi un petit peu plus.
Ouais. Il y a eu dans le passé une vraie mobilisation internationale pour le Tibet. Est-ce que ça a vraiment fait avancer la cause tibétaine? On peut se le demander. Aujourd'hui, juste en un mot, les uns et les autres, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe? Qu'est-ce que vous attendez des États-Unis? Il y a eu des mobilisations, on va dire, sur les réseaux sociaux en France, comme celle du footballeur Antoine Griezmann, qui a mis fin à sa collaboration avec le géant chinois de la téléphonie Huawei, mais qui est soupçonné de fournir de la technologie pour la surveillance, pour la suppression, la répression des Ouïghours. Mais au-delà de ça, de ces gestes symboliques, qu'est-ce que vous attendez alors que la Chine, finalement, ressort plus forte que jamais de la pandémie qu'elle a elle-même provoquée? Est-ce que les Européens, les Américains sont en position d'obtenir quelque chose?
Oui, aujourd'hui, en Belgique, deux députés belges ont déposé une proposition de résolution pour demander la reconnaissance du génocide ouïghour, mais aussi, en fait, une demande qui inclut aussi la sanction de la Chine pour ses crimes contre l'humanité. Personnellement, enfin, en tant qu'une membre de la diaspora ouïghour, moi, étant française, je demande et je souhaite que l'Europe prenne des mesures réelles de sanctions. Il n'y a que sanctions qui marchent, sanctions économiques et diplomatiques et administratives qui marchent avec ce système. On sait clairement que c'est un système génocidaire qui est en train de commettre un crime contre l'humanité et que, avec lequel l'Europe vient de signer un traité d'investissement, ce qui est totalement une honte pour l'humanité et que je rappelle que l'Europe ne doit pas répéter son erreur de fermer les yeux une deuxième fois.
Merci à vous, Dilnour Ryan, sociologue, professeur à l'INALCO, présidente de l'Institut des Ouïghours d'Europe. Merci à vous, Sylvie Lasserre. Vous avez publié « Voyage au pays des Ouïghours, de la persécution invisible à l'enfer orwellien ». Et merci à vous, Sylvain Louvet. Votre documentaire est toujours disponible sur Arte. « Tous surveillés, 7 milliards de suspects ». Une partie est consacrée à la population ouïghour. Et d'ailleurs, on apprend aussi qu'il y a bien deux caméras pour un habitant sur l'ensemble du territoire chinois, si mes souvenirs sont exacts. Merci à vous.
Merci
infiniment. Merci à vous. Lundi, 7 milliards de voisins, je laisse le micro à Chantal Leroux. L'émission sera consacrée au stress au travail dans le contexte du Covid.
À l'ouest, au pays de l'Empire céleste, dans le ciel, un drapeau rouge se lève. On parle le turc et se passe le selem. En Chine populaire au 21e siècle, dans la vieille ville, y'a le bruit qui court. Qu'on déporte tout ce qui ressemble aux Ouïghours. Sarah à 12 ans joue dans la cour avec un drone déguisé en hibou. Ils ont mis ma maison sous scellé, hérissé les murs barbelés, cloué une plaque non civilisée et m'ont laissé les yeux embués. Une semaine avant, on le savait, un SUV vert nous suivait. Ils ont laissé mon père pour décéder. Et ma mère, ils l'ont stérilisé. 1 million de Ouïghours mis à huis clos pour des images religieuses dans leur Ouïgo. T'es suspecté si tu te mets à parler turc. Barbe et foulard sont interdits dans les bus. Un haut-parleur diffuse une voix métallique. Dans les rues de la ville, on entend Xi Jinping qui nous exhorte à rejoindre le parti et lutter activement contre le terrorisme. La vérité, c'est qu'on est assis sur des ressources pétrolières, enfermés dans les camps où on est de la main-d'œuvre sans salaire. On travaille pour les multinationales, marchandises pour le marché illégal. Il paraîtrait même que nos organes sont vendus aux malades des pays arabes. Alors j'ai envoyé mon appel à l'aide dans une vidéo tuto. Adolescente et lanceuse d'alerte, j'ai pas d'autre choix que de le faire sur TikTok. Tout ça c'était sans compter la cybersurveillance au pays de Mao. Et 2 heures après que je poste, la police était déjà derrière ma porte. Coup de matraque à pointe dans le cou, ces gourdins qu'on appelle aussi dents de loup. L'un d'entre eux me demande de me mettre à poil et m'asperge le corps de son gaz au poivre. Direction les camps d'internement, où 40 co-détenus t'attendent dans ta chambre. Les yeux bandés au fond d'un wagon, direction les camps de rééducation. Scanner des iris, assise sur la chaise du tigre, seringue dans la cuisse. On assiste à un génocide et le traitement rend docile et supprime les règles des vies. Ils nous ont dit que c'est ici qu'on passera la fête de la Eid.
Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac pour la réalisation. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement et nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Dans quelques instants, le journal sur RFI.
7 milliards de voisins, c'est fini.
Ce 13 février, RFI et Monte-Carlo